Bonsoir, vive tension internationale alors que les Occidentaux, eh bien, cherchent toujours à faire des frappes contre Damas alors que ce week-end se déroulait ce qui ressemble à une attaque chimique. Alors, Moscou met en garde et le président américain avertit la Russie que les missiles arrivent. On voit les marchés actions qui sont à la baisse, le pétrole qui grimpe, alors simple rhétorique guerrière ou réelle menace. Est-ce que Trump va défier la Russie en Syrie ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
On va faire le point, comme chaque soir, avec les meilleurs experts. Il y a avec nous Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas, et qui vous prépare dans deux semaines « Quand l'Amérique gronde ». Jean-Noël Vieille, évidemment, l'homme des marchés, il est stratégiste marché chez HPC. François Hesbourg également est avec nous, conseiller spécial auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui avait fait paraître il y a deux ans, et je recommande toujours ce petit livre, hein, « Comment perdre la guerre contre le terrorisme, guerre », livre toujours évidemment d'actualité. Alors, que s'est-il passé donc dans les dernières heures ? Rappel des derniers épisodes. Oui, dimanche, bien sûr, la découverte de l'horreur, hein, ces civils morts après une attaque présumée au gaz toxique, imputée par les Occidentaux au régime syrien contre la ville rebelle de Douma. Depuis, les grandes capitales réfléchissent, hein, Londres, Paris, Washington, à des frappes contre le régime de Bachar al-Assad. Dans la matinée, ce mercredi matin, donc, Moscou, via son ambassadeur au Liban, affirme que tout missile tiré contre la Syrie sera abattu et que les sites de lancement seront détruits. Et puis à son réveil cet après-midi, donc heure locale, bien sûr, Trump y tweet « Tiens-toi prête, Russie, les missiles arrivent ». Alors, je vais paraphraser le Premier ministre turc, Monsieur Yildirim, qui disait cet après-midi « Lundi, j'ai de meilleurs missiles. L'autre dit non, c'est moi qui ai de meilleurs missiles. Allez chiche, envoie-les, hein. C'est une bagarre de rue. Ils se bagarrent comme des caïds et qui en paye le prix? Les civils. François Hesbourg, au-delà du rôle de la Turquie dans la région sur lequel on pourrait revenir, bien sûr, est-ce qu'il a bien résumé la situation? Bagarre de rue entre les deux?
Ouais, il a pas mal résumé la situation dans le sens où cette affaire est effectivement partie de la déclaration, à vrai dire, très surprenante de l'ambassadeur de Russie à Beyrouth, qui ne correspond pas à ce que disent les porte-paroles de Poutine au Kremlin, et qui, eux, se gardent bien de dire que la Russie va frapper les sites américains pour le cas où il y aurait une frappe contre la Syrie.
Pardon, j'ouvre une parenthèse, oui. Simplement sur cette déclaration de l'ambassadeur russe au Liban, à Beyrouth, donc, ça visait quoi? La Russie viserait quoi en représailles, alors?
Ah ben, il disait, il y a des frappes en Syrie, il y aura en retour, la Russie va détruire les missiles et les sites de lancement des missiles.
Ça veut dire un bateau américain, par exemple?
Ça veut dire un bateau français, un bateau américain, des avions français, des avions américains. Trump, qui a dû apprendre cela vraisemblablement puisque le matin il a tendance à regarder Fox News, et il est parti comme le caïd évoqué par Monsieur Yildirim, et il a répondu par un tweetos du plus bel effet, qui n'est pas tout à fait en ligne avec les propos qu'il tient habituellement vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc effectivement il y a un côté bagarre de rue, et donc je n'en tirerai pas forcément la conclusion que cet échange va avoir un impact majeur sur le déroulement des opérations dans les prochaines heures et dans les prochains jours.
On va voir ça dans un instant. Alors donc, en effet, Moscou ne veut pas participer, je cite, à cette tweeto-diplomatie. Il y a aussi une déclaration de Trump, on y reviendra dans le détail, mais simplement, vous allez nous réexpliquer le contexte. Jean-Éric Brana, vous qui connaissez bien les États-Unis, c'est vrai, il y a ce tweet, bon, quand même, dur, hein, quand il se réveille, très énervé, qui dit « Tiens-toi prête, Russie, les missiles arrivent », et puis il parle de beaux missiles, hein, voilà, les plus beaux missiles. Puis quelques temps après, en même temps, Trump propose d'aider l'économie russe. Bon, c'était moins d'une heure après. Bon, quelle interprétation donner? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Trump? Il y a vraiment de la rhétorique guerrière? Il a envie d'aller jusqu'au bout? Ou alors, bon, il s'est énervé un petit peu, pas comme d'habitude, quelque part?
Alors moi, je ne l'ai pas trouvé énervé. Je veux dire, il y a une rhétorique, effectivement, qui appartient à Trump. Les beaux missiles tout neufs et intelligents, on se souvient, c'est grand, c'est fantastique. C'est, voilà, on est, pardon, je suis en train de casser votre micro. Mais on est dans la rhétorique Trump à laquelle on s'est habitué maintenant. Alors on va oublier un petit peu ce vernis et regarder ce qui est envoyé comme message. Le message, c'est... on a entendu effectivement cet ambassadeur au Liban qui monte en rhétorique guerrière. On a entendu également la porte-parole de la diplomatie russe, faut quand même le dire, qui a dit à peu près la même chose parce que c'est quand même monté assez haut du côté du Kremlin. Et Donald Trump, qui veut lui avoir une relation particulière avec Vladimir Poutine, écrit un message aux Russes et non pas à Vladimir Poutine, c'est quand même important, en disant restons calmes. D'abord, nous devons travailler ensemble puisque... Comme je l'ai souvent dit sur votre plateau, Donald Trump est un businessman qui veut faire du commerce. Il n'a pas envie de faire la guerre. Ce qu'il veut faire dans cette histoire-là, parce qu'il ne faut pas oublier la gravité de la situation, il y a des populations qui se sont fait gazer, il y a donc des armes chimiques quelque part, et il faut que ça s'arrête. C'est quand même la terreur du monde qu'il puisse y avoir une guerre chimique. Et on a vu avec l'affaire Skripal en Europe assez récemment l'émotion intense que ça a pu provoquer dans nos pays. Et c'est bien normal, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas eu affaire à une attaque chimique sur nos territoires. Donc Donald Trump avait fixé, on s'en souvient, il y a un an déjà, c'était le 6 avril, donc il y a exactement un an, une ligne rouge qui était ces attaques chimiques, en expliquant qu'il ne voulait pas intervenir dans le monde. On l'avait dit d'ailleurs à l'époque, encore une fois sur ce même plateau, c'est un non-interventionniste avec deux exceptions, le terrorisme et effectivement les attaques chimiques.
Et il avait visé l'an dernier quasiment jour pour jour, hein, c'était début avril, au moment d'ailleurs où il recevait le président chinois, le 6 avril, donc c'était à Mar-a-Lago, donc en Floride, il avait tapé une caserne syrienne, mais... exclusivement syrienne. La question qu'on se posera notamment avec François Hesbourg tout à l'heure, c'est la difficulté. S'ils frappent la Syrie, les Russes ne sont jamais très très loin. Oui, vous voulez rajouter quelque chose justement?
Non.
Et puis on voudrait qu'on aille sur les marchés après avec Jean-Noël.
Non, simplement pour rappeler que dans cette affaire, il y a deux lignes rouges, si je puis dire, celle qui vient d'être évoquée, et la ligne rouge du président Macron. Et puisqu'il a, de son côté, tenu à affirmer quelque temps après son élection à la présidence de la République que pour la France, il y avait aussi une ligne rouge chimique. Et donc, cette affaire des lignes rouges est une contrainte que se sont imposées les deux présidents et qui, quelque part, du coup, prédétermine leur comportement, sachant que ni l'un ni l'autre n'a envie de terminer son mandat et au plan international, comme Barack Obama, lorsqu'il avait tracé sa ligne rouge qu'il ne l'avait pas respectée. Et je ne pense que ni Trump ni Macron ne voudront se trouver dans cette situation.
Voilà, ils veulent faire oublier Obama et sa ligne rouge de 2013. On va revoir dans un instant avec vous tous, hein, si une riposte est inéluctable contre la Syrie, qui va frapper contre quoi. Juste, Jean-Noël Vieille, il faudrait expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes stratégiste de marché chez HPC. Le tweet de Trump, au moment où il se réveille, tiens-toi prêt, Russie, les missiles arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le recul des places financières. On a vu d'ailleurs Paris, au final, qui a terminé à -0,5, Francfort à -0,8, Londres, bon, plus ou moins indécis, -0,1%. Puis au moment où on se parle, donc voilà, 19h20, mais bon, peut-être que vous nous suivez avec la rediff, on a le Dow Jones qui est en recul, et également de -0,4%, et puis le Nasdaq dans une moindre mesure de... Ah non, qui est passé dans le vert, voilà, plus 0,1%. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, justement? Qu'est-ce qui a impacté les marchés?
Non, ce qui est très compliqué pour nous, c'est que, finalement, on vient de sortir d'un trimestre où on a été impacté effectivement déjà par les problèmes de Trump avec la Chine, qui pour nous posait des problèmes importants, puisque c'était la question de la croissance économique qui était posée avec ces questions protectionnisme. On a eu le sentiment il y a seulement une semaine que on avait un petit peu baissé cette tension,
la situation
puisque finalement les Chinois allaient composé finalement avec ce que demandait Trump.
Et Trump revenait lui-même et sur ses menaces. Oui.
Et là, donc, on reprenait un peu la croissance des marchés. Les marchés financiers repartaient en croissance sur le fait que nous avions quand même des signaux économiques, que ce soit aux États-Unis, en Europe, toujours très bons. Vous avez eu les chiffres de la France, d'ailleurs, ce matin, où on relève finalement les prévisions de croissance sur 2018 et 2019. Donc, effectivement... ça ne nous a pas énormément plu, puisque c'est à nouveau une tension supplémentaire qui vient polluer. C'est à nouveau la politique qui reprend ses droits par rapport à une économie qui va bien. Et pour nous, ça devient assez ingérable, puisque ça veut dire beaucoup plus de volatilité. Néanmoins, quand vous regardez les mouvements d'aujourd'hui, ils sont quand même assez contenus sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, il y a eu une baisse au moment de l'arrivée de ce tweet, y compris sur les futurs américains, parce que c'était pas encore ouvert. Mais aujourd'hui, enfin, on a l'impression que ça revient. Donc encore une fois, je pense qu'on n'est pas encore dans le schéma qu'on avait connu sur la guerre du Golfe, qui était quand même tout à fait un autre problème. Là, ce qui moi me gêne énormément, ça veut dire que la question politique, je pensais que elle allait s'abaisser. Je pense qu'elle va durer. Pourquoi ? Parce que on n'en a pas encore parlé. Trump a ses élections de mid-term qui sont quand même, je pense, très mal engagées, et que donc chaque fois il va vouloir reconquérir son électorat de base. Et l'électorat de base, ben, il aime bien peut-être cette bataille de rue.
Voilà.
Ce que dit le donc ça, on comprend bien. Et nous, ça nous amuse absolument pas. Donc je pense que malheureusement, on va encore vivre avec de la volatilité. Qu'est-ce qui va se passer après la Syrie, etc.
Jean-Éric Brannard, François Westbourg, en effet, jusqu'au mois de novembre, et alors peut-être ensuite après pour sa réélection, il va à chaque fois un petit peu s'agiter, réveiller son électorat un petit peu. On en avait parlé au moment de la guerre commerciale il y a deux semaines, avec vous deux d'ailleurs, justement, ici même, Jean-Éric.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'effectivement la parole d'un président influence les marchés, puisque ils sont très à l'écoute de ce qui peut être dit. Et s'il y a eu ce premier tweet, il y en a eu un deuxième qui a fait énormément réagir à mon sens, mais là vous êtes plus spécialiste que moi pour le dire. C'est celui dans lequel il a expliqué que les relations avec la Russie étaient pires que dans les années 60 et 50, à savoir que c'était pire que pendant la guerre froide.
Il estime que les relations entre les États-Unis et la Russie sont pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la guerre froide.
Voilà, et alors là, c'était du pessimisme qui se mettait en avant, alors que la parole de Trump, ça a plutôt été d'envoyer de l'optimisme sur les marchés. Tweet qui a été corrigé par un autre tweet par la suite, en retombant sur la politique intérieure comme il le fait à chaque fois, quand il a expliqué que si ça allait si mal, en réalité, c'était parce que les démocrates, on est donc bien aux États-Unis, s'emploient à faire une chasse aux sorcières contre leur président, il parlait de lui-même, et que il parle du Russiagate, bien sûr, cette enquête de collusion russe, et qu'en réalité, le malaise qui se passe avec les Russes ne se trouve que là. Donc il minimisait l'ensemble, et je crois que ça a tendance à plutôt rassurer les marchés qui se disent, bon, ben, si on retombe dans les bisbilles habituelles, c'est donc bien moins grave que ce qu'on nous a promis. Et autant en début d'après-midi, pour nous, on était dans la Troisième Guerre mondiale, autant ce soir, on est à nouveau dans les petites guéguerres internes entre démocrates et républicains. Et effectivement, on s'occupe plus de midterms que de guerre internationale.
On va nous reparler du Russiagate tout à l'heure, parce que là aussi, il faudrait essayer qu'on comprenne aussi cette crise avec la Russie, qui n'est pas uniquement liée à la Syrie. François Westbourg.
Oui, d'ailleurs, quand on regarde le flot de tweets, parce qu'il y en a eu beaucoup de la part de Donald Trump aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne portent pas du tout sur la crise dans nous parlons. Et il est comme Fox News, il passe d'un sujet à l'autre. C'est un homme qui fonctionne, j'allais dire, à l'instar des réseaux sociaux. Non, je ferai deux observations. D'abord, la première, c'est la Syrie. Il y aura, je pense, une frappe rapidement. Elle sera vraisemblablement franco-américaine.
Donc riposte inéluctable.
Elle sera conduite, j'imagine, avec la prudence nécessaire pour éviter un affrontement entre la Russie et les États-Unis et la France, sachant que ceci n'est pas en soi particulièrement difficile, puisque les Israéliens bombardent à intervalles réguliers les Iraniens en Syrie, les Israéliens et les Russes veillent à se prévenir les uns les autres de ce qui va se passer.
Comme ce qui était le cas donc lundi matin.
Oui, sauf que lundi matin ça n'a pas très bien fonctionné. Alors du coup les Russes, une fois n'est pas coutume, ont élevé la voix en disant non. Là, vous êtes allés trop loin, chers amis israéliens, parce que en fait, ils partageaient la base avec les Iraniens. C'était ça le problème. Donc, dans l'affaire syrienne, une frappe vraisemblablement relativement courte, intense, et qui pourrait, le cas échéant, mais ça, alors là, pour le coup, je fais un peu du Madame Irma, permettre à Trump de faire ce dont il a envie, du moins c'est ce qu'il disait la semaine dernière. La semaine dernière, il disait qu'il voulait que les Américains quittent la Syrie, puisqu'il y a toujours 2-3 000 soldats du côté de Manbij. Et alors là, effectivement, en ayant fait une démonstration de force, il est plus facile de retirer du monde. Mais enfin, nous verrons. Et alors, l'autre chose, c'est que, bien entendu, nous entrons dans la séquence iranienne. La visite du président Macron à Washington dans 10 jours, où on parlera de quoi ? Ben, notamment de l'avenir de l'accord nucléaire avec l'Iran, avec la date guillotine du 12 mai, où Trump va passer à exécution ou non de ses menaces, de son ultimatum du mois de janvier, où il disait si l'accord n'était pas substantiellement amélioré, il allait sortir de l'accord. Ça, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus grave que l'affaire syrienne, si elle est maîtrisée suivant les lignes que je viens d'évoquer.
J'ai encore plein de questions à vous poser sur une frappe éventuelle. Je vous donne la parole, Jean-Éric Berlin. Simplement, juste sur l'Iran. Ils en ont parlé tous les deux hier, le prince héritier Mohamed Ben Salman avec le président de la République à l'Élysée ou pas, de l'Iran.
Forcément.
Oui. Mais quoi, pour dire quoi, c'est ça?
Ah, ça, je pense que ça, MBS aura dit tout le mal qu'il pensait, pensait des Iraniens.
Et on a vu encore aujourd'hui les Houthis, enfin, en tout cas, ça a été attribué aux Houthis, les rebelles Houthis, donc, proches de Téhéran, qui se trouvent au Yémen, qui ont tiré alors, je sais pas ce que c'est, des missiles peut-être.
Sans des missiles, sans des fusées iraniennes.
Des fusées iraniennes ont été détruites par la DCA saoudienne ou
qui ne l'ont pas été d'ailleurs. C'est pas toujours très clair. C'est pas très important non plus.
Enfin, en tout cas, c'est toujours à surveiller. Jean-Éric Brenas, sur l'Iran, vous vouliez me faire une remarque? Non, c'était.
Je vais vous dire un petit mot sur l'Iran. Il me semble, je sais pas si vous partagerez cet avis, que la frappe sera menée par une coalition un peu plus élargie. Je pense que les Anglais seront dedans, ne serait-ce que parce que Theresa May en a besoin actuellement et qu'en plus, elle a une fenêtre de tir, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, qui est assez extraordinaire puisque le Parlement en ce moment n'est pas en
session.
En session, ce qui lui permet de prendre la décision seule. Donc, ça va être fait avant le 16.
Donc, elle va se passer du feu vert du Parlement. Ce n'est pas obligatoire, mais en général, il y a une
tradition. Non, c'est pas obligatoire, mais effectivement, on se souvient quand même qu'en 2013, Cameron avait été en difficulté puisque Miliband avait réussi à attirer à lui pas mal de conservateurs. Et je pense même qu'il y aura l'Arabie Saoudite dans...
Oui, alors l'Arabie Saoudite a indiqué hier soir à MBS, alors vous parlez de quoi ils avaient parlé.
Vous avez les alliés pour riposter.
Ils avaient notamment parlé de ça et MBS a dit que l'Arabie Saoudite était prête à participer le cas échéant. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée compte tenu de la façon dont les Saoudiens ont la fâcheuse habitude de détruire à peu près tous les objectifs possibles et imaginables au Yémen, sauf les objectifs militaires, les hôpitaux, les prisons, les écoles.
Enfin,
c'est l'art saoudien de la guerre est marqué par une incompétence qui n'est pas bienvenue dans une affaire aussi tendue et difficile et délicate que la Syrie. S'agissant du Royaume-Uni,
les Iraniens et les Russes, en effet.
Permettez de terminer mon propos, puisque
pardon.
Ah non, je crois que vous avez fini.
J'avais pas terminé.
Jean-Éric et François.
Donc, je pense donc qu'il y aura une coalition plus élargie, ce qui veut dire plusieurs choses. D'abord que Donald Trump, sur le plan diplomatique, a réussi à créer une coalition. Et il y a un an, personne n'aurait parié $1 sur cette affaire-là. Et surtout, effectivement, la date du 12 mai est très importante, puisqu'il a une décision fondamentale à prendre, que pour l'instant, personne, là aussi, ne parie $1 sur le fait qu'il ne va pas la prendre, c'est-à-dire qu'il va effectivement durcir sa position vis-à-vis des Iraniens. Et le fait de montrer sa force cette fois-ci en Syrie, ça peut être aussi un moyen de pression assez extraordinaire sur l'Iran, parce que il y a besoin peut-être de faire avancer des pions de ce côté-là. Oui.
Donc une vaste coalition, donc on en était donc à l'Arabie Saoudite peut-être. Theresa May, elle va y. Elle se sent pas quand même un petit peu exclue quand même, parce qu'on voit Macron et Trump qui se parlent l'un et l'autre.
Du côté français, on serait ravis que les Britanniques soient de la fête, et Theresa May a jusqu'à présent n'a pas témoigné d'une très grande capacité à convaincre son conseil des ministres à adopter une position commune sur quoi que ce soit. Il faut au moins que le conseil des ministres soit d'accord sur une éventuelle participation. Donc on verra si elle en fait partie ou pas. Et ils seront naturellement les bienvenus. S'agissant de l'Iran, je ne suis pas sûr qu'une frappe impressionnera les Iraniens, mais par contre, effectivement, et pour Trump, mais peut-être surtout pour Macron, l'occasion d'une coalition est bonne à prendre par rapport aux discussions d'ici le 12 mai. Et je pense que le président français jouera à fond le jeu de la coalition pour tenter d'avoir un bras de levier dans cette affaire où nous souhaitons, nous, comme tous les Européens, vivement, que l'accord nucléaire soit préservé.
Bien sûr, oui, oui, on va le rappeler. Donc, il y avait derrière notamment la Grande-Bretagne, il y avait l'Allemagne, il y avait la France, et puis évidemment donc d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, et c'est tout. La Russie, je crois aussi. La Russie, voilà, exactement. Juste, vous nous dites, c'est important pour Emmanuel Macron, vous nous le disiez tout à l'heure, François Hesbourg, la crédibilité vis-à-vis de la ligne rouge, l'histoire aussi de peser dans le discours, dans le dialogue autour de l'Iran. Il doit marquer aussi sa bonne entente avec Donald Trump aussi. On les voit l'un avec l'autre quand même, Jean-Éric Brana, Macron et Trump. Hein, c'est les nouveaux alliés, les nouveaux amis, franchement.
Ah, c'est pas des nouveaux alliés. La France et les États-Unis.
Non, mais de vrais alliés, de vrais amis.
Oui, voilà, oui, mais c'est ce que j'allais dire. La France au-delà et les États-Unis sont de vrais alliés depuis très longtemps. Je vous renvoie au général de Gaulle qui avait expliqué, c'est une citation célèbre, que dans le malheur, les Américains et les Français se retrouvent tout le temps. Pas que dans le malheur, d'ailleurs. Non, c'est vrai que président Macron a très bien joué sa partition en se rapprochant du président Trump, alors qu'on n'aurait pas parié là non plus grand-chose sur
ce rapprochement. C'est pour ça que je vous posais la question.
Et je crois que la réception grandiose qui va lui être faite à Washington dans le 23, c'est ça.
Ce qu'il faut rappeler, c'est le premier chef d'État étranger à être reçu de la sorte, visite d'État, par le président depuis qu'il a été élu, donc
un poids symbolique extraordinaire, puisqu'il va y avoir par exemple Mount Vernon, la demeure de George Washington, qui va être ouverte pour l'occasion. Vous savez que quand un chef d'État, même américain, se rend à Mount Vernon, on le fait automatiquement signer dans le carnet des grands visiteurs, et ils n'y sont pas tous allés. C'est un endroit vraiment très symbolique, chargé d'histoire, et on va rappeler à ce moment-là, puisque George Washington l'avait fait, que l'affection que les Américains nous portent date de Lafayette, puisque Lafayette est arrivé pour pouvoir permettre cette révolution et permettre la naissance de ce pays. C'est pas rien, ce qui veut dire que la France est en train de prendre la place de l'Angleterre dans le cœur des Américains et dans la relation spéciale.
C'est pour ça que je pose la question sur Theresa May.
Emmanuel Macron a très bien joué le jeu en devenant l'interlocuteur principal de Donald Trump. Je crois quand même que Donald Trump avait intérêt à se servir d'Emmanuel Macron, d'une part pour affaiblir quelque part les Anglais et pouvoir négocier plus fortement avec eux, et surtout pour damer le pion aux Allemands, puisqu'il a toujours en ligne de mire l'idée d'une négociation bilatérale avec les Allemands pour pouvoir rétablir la balance commerciale un peu plus en sa faveur. C'est vrai qu'avec la France, il y avait moins de considération de ce côté-là, donc c'était plus facile à jouer.
Et pas de grosse voiture allemande. Oui, François Hesbourg.
Oui, Emmanuel Macron, je le qualifie dans son exercice de la diplomatie de néo-réaliste. Et ce n'est certainement pas un néocon, ce n'est pas non plus un réaliste un peu cynique à l'ancienne, hein. Ce n'est ni Bernard-Henri Lévy, ni Hubert Védrine, si je puis dire. C'est l'homme qui a tout de suite compris, et malgré ou peut-être même grâce à son manque d'expérience dans le domaine international, il a compris que le monde avait profondément changé, qu'on était dans un monde qui est à l'image de la façon dont le voit Trump. Un monde purement transactionnel et purement conditionnel. Il n'y a pas d'alliance durable. Et donc, dans ce monde, il faut apprendre à parler avec tout le monde. Donc, Macron, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. C'est le seul Européen aujourd'hui, le seul chef d'État européen qui peut parler de façon substantielle à Erdogan, à Sisi, à Poutine, à Trump. Ni Angela Merkel, ni Theresa May ne peuvent le faire sur l'ensemble de cette palette. Et si vous regardez attentivement les quatre exemples que je viens de citer, le mode opératoire de Macron est très similaire s'agissant des uns et des autres. On est sorti du moule gaullo-mitterrandien, en tout cas au niveau du mode opératoire, et probablement au niveau de la vision du monde. Et je pense que c'est profondément juste, en l'occurrence.
Bon, on se retrouve dans un instant. On reparlera du pétrole avec vous, Jean-Noël Vieille. Bien sûr, très intéressant. François Hesbourg, Jean-Éric Brana, Jean-Noël Vieille. On revient vite dans un sens que Trump va défier la Russie en Syrie. On continue avec les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, les tensions internationales dans les décodeurs de l'écho, donc les Occidentaux qui se préparent à frapper, donc où et quand, donc la Syrie, hein, en représailles, donc, eh bien, à cette attaque. Alors, supposé chimique et imputé à Damas. Bon, on en reparlera d'ailleurs, hein, parce que, bon, évidemment, bon, là, personne n'est d'accord. La Russie, elle met en garde. Le président américain donc prévient Moscou que les missiles arrivent. Donc, vive tension. On en parle toujours avec François Hesbourg, conseiller spécial auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-Noël Vieille, stratégiste marché chez HPC. Et puis Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Tiens, quand l'Amérique gronde, sorti dans deux semaines, juste un petit mot. Retour dans les années 68, quand Trump avait 20 ans
tout pile, ouais. Effectivement. Et pourquoi retourner vers les 20 ans de Donald Trump? Parce que j'ai, comme beaucoup, été très surpris de voir le travail de déconstruction de l'œuvre d'Obama de Donald Trump. Une fois qu'il a à peu près tout déconstruit, il a continué la déconstruction, mais à ce moment-là, de tout le progressisme américain qui trouve sa source, effectivement, en 1968. Et pourquoi? Parce que Donald Trump, il trouve ses racines en tant qu'homme et ses racines en tant que futur chef d'État. En ayant connu le monde d'avant dans lequel visiblement il se sentait plus heureux, et lui qui n'est pas un politique est en train de travailler pour les conservateurs américains en faisant remonter ce monde à la surface. Alors je balais l'ensemble de cette période des années 60-68 dans son sens le plus large, bien sûr, avec les mouvements de protestation, la période très violente, des morts très connues, Martin Luther King, les deux frères Kennedy, l'ensemble, mais surtout tout ce progressisme qui s'est mis en place et auquel s'attaque aujourd'hui Donald Trump. Donc c'est un livre qui permet effectivement de mieux comprendre les ressorts de ce personnage.
Quand l'Amérique gronde. Alors l'impact sur les marchés, on l'a vu tout à l'heure avec vous, Jean-Noël Vieille, dont citons le tweet de Trump en disant les missiles arrivent, donc on a vu les marchés actions baisser. Et puis le pétrole, donc, eh bien, le pétrole grimpait, hausse des cours du pétrole, le WTI, le Brent également, apparemment à son plus haut en 3 ans. Il y a une prime géopolitique autour de la Syrie. Pourquoi tout ce petit monde là encore s'agite, hein?
Oui, mais c'est la version risque qui revient. On a eu un certain nombre de choses assez logiques. Donc remontée du pétrole, parce que si on vous écoute, j'ai pas trop participé, mais si tout le monde, enfin j'espère que c'est pas le scénario catastrophe que vous développez, avec une entrée en scène de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., et de nous, ça sera quand même extrêmement compliqué. Donc, en fait, dans ces cas-là, quand il y a une aversion, vous avez, les phénomènes sont assez classiques. On a donc une montée du pétrole, puisque ça c'est logique. On a eu une détente sur les taux, puisque les investisseurs vont chercher des actifs de qualité, donc les rendements, les taux souverains, soit aux États-Unis ou en Europe, baissent, c'est ce qu'on a vu. On a aussi le fameux or.
Ah, qui remonte.
qui enfin remonte, et puis des autres matières premières, etc. Et c'est vrai qu'y compris, d'ailleurs, je regardais avant de venir, dans les rotations sectorielles, c'est-à-dire dans les actions, vous avez eu effectivement un gain assez fort des valeurs comme Technip, comme Tenaris, Saipem, etc. Toutes les valeurs qui sont impactées par les prix du pétrole, plus les valeurs défensives comme Kering, comme des sociétés qui sont où on se dit ça va un peu mieux se passer. Et d'ailleurs aussi en Europe, on a eu un impact plus fort toujours en Allemagne, où la baisse a été plus forte. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs beaucoup plus industrielles. Ouais. Et les valeurs industrielles, si on avait une espèce de guerre qui veut pas dire son nom, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un
transport qui a perdu 0,8%.
Voilà, beaucoup plus que finalement les autres. Donc tout ça est assez logique. Encore une fois, faut espérer que les choses se calment un petit peu.
Alors, les choses vont-elles se calmer? Que disait Poutine cet après-midi? On écoute le président russe, puis on revient juste après, notamment avec François Hesbourg, Jean-Éric Brana et Jean-Noël Vieille.
La situation dans le monde devient de plus en plus chaotique. Néanmoins, nous espérons que le bon sens prévaudra et que les relations internationales deviendront constructives. L'ensemble du système mondial deviendra stable et prévisible.
Voilà, et puis Poutine qui, ce soir, appelle Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, à éviter toute action donc qui pourrait éventuellement embraser la situation, évidemment, s'abstenir. Bon, il espère que le bon sens finira par l'emporter. Franchement, François Hesbourg, risque d'embrasement, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, la France, bon, la Russie, bien sûr.
Alors, le très court terme et puis le moyen terme. Le très court terme, c'était le tweetos de ce matin de Trump qui, lorsqu'on le recevait en pleine figure, effectivement, on comprend que les marchés aient eu un peu plus qu'un hoquet. Okay, et ce que vous disiez sur les marchés allemands et s'explique, je crois, pas seulement de par la nature des actifs qui sont en jeu à l'industriel en Allemagne, mais aussi parce que les Allemands y ont lu ce qu'on devait y lire, à savoir une menace de conflit entre les États-Unis et la Russie, ce qui dépasse évidemment de très loin le problème de savoir si on va balancer des missiles de croisière sur les unités militaires de Bachar al-Assad. On changeait tout d'un coup de jeu et il a fallu quelques heures pour que le soufflet commence à retomber, pour que on arrive à la conclusion qui, j'espère, est la bonne, mais en tout cas je la partage, j'espère ne pas me tromper, qu'effectivement c'était entre guillemets du Trump pur sucre, donc à ne pas prendre au pied de la lettre, que Trump avait probablement réagi, surréagi comme il le fait d'habitude lorsqu'il regarde Fox News. Et le moyen terme, lui, il est beaucoup plus inquiétant. Et c'est effectivement le détricotage de l'accord nucléaire, sachant qu'il n'y a pas que Donald Trump qui veut défaire l'accord nucléaire, il y a aussi une partie des forces politiques iraniennes qui veut défaire l'accord nucléaire. Les Pasdaran,
c'est ça,
je pense que les Pasdaran ne seront pas forcément fâchés s'il devait y avoir une mise en cause de l'accord nucléaire qui ne serait pas imputable à l'Iran, et avec en face d'eux un monde totalement divisé, parce que personne ne soutiendra les Américains dans cette affaire. Et s'ils sortent unilatéralement de l'accord, alors qu'il n'y a pas de bonne raison pour le faire, les Russes, les Chinois et les Européens seront d'un côté, ce qui est inhabituel, et les Américains de l'autre. Donc une situation internationale qui sera totalement différente de celle que l'on vient d'évoquer sur la Syrie, où il y a une coalition occidentale. Et là, on entre dans la zone imprévisible, puisque aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ni l'Iran ni Israël ne paraissent pressés d'en découdre. Ils se testent, ils se tâtent, ils se reniflent. De temps en temps, il y a des bombes qui tombent. Mais tout ça est assez chorégraphié, assez maîtrisé, et la Russie joue un jeu particulier avec Israël, parce que la Russie, tout en partageant les buts pro-Bachar en Syrie, n'est pas l'allié de l'Iran. C'est plus compliqué que ça. On est au Moyen-Orient, hein, rien n'est simple. Et là, effectivement, avec ces niveaux d'imprévisibilité dans le Golfe, puisque l'Iran est dans le Golfe, là, effectivement, je pense que vous aurez matière à commenter.
Bon, alors, Jean-Éric Brannard.
Oui, j'ai un avis un petit peu divergent de ce que je viens d'entendre. D'abord, je crois que le président Trump a une stratégie, donc toujours la même, qui est d'aller faire du commerce, donc il n'y a effectivement pas intérêt à ce que le monde devienne un chaos, comme le disait Poutine, et plutôt intérêt à calmer les choses.
Est-ce pour que la autant, situation peut lui échapper à un moment?
Pour autant, sans qu'elle lui échappe, on a quand même remarqué qu'il s'est passé des choses autour de lui ces dernières semaines, des gens qui ont été remplacés par d'autres. On a vu l'arrivée de Bolton en particulier. John Bolton, c'est pas n'importe qui, on le connaît bien, on sait qu'il n'a absolument pas peur d'aller faire une guerre. On dit suffisamment que c'est un faucon. Avec
Bolton,
en ligne de mire,
il est arrivé où, rappelez-moi?
Il est à la sécurité nationale. Il a en ligne de mire trois pays, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie, et c'est quelqu'un qui est favorable à ce qu'on monte le ton, voire plus si besoin, contre ces pays, qui est effectivement avec des positions très dures concernant le nucléaire, comme beaucoup de républicains conservateurs, faut-il le rappeler, donc il est loin d'être le seul, et Donald Trump écoute ces gens-là aujourd'hui, travaille avec eux, et travaille leur ligne en particulier. Donc on va plutôt espérer que Donald Trump reste lui-même et reste un businessman, c'est-à-dire qu'il se laisse pas emporter par ceux qui sont plus politiques que lui et plus stratèges, parce que effectivement, sinon, ça nous amène sur des rives sur lesquelles personne n'a envie d'aller, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est là où on a plutôt intérêt, pas forcément à dire à chaque fois Trump regarde Fox News et donc décide, mais à se dire, moi j'espère que Trump agit comme d'habitude avec son intuition, intuition, parce que intuition il y a, et jusqu'à maintenant il a montré qu'elle n'était pas trop mauvaise. Et souvenons-nous aussi qu'il n'a pas peur d'isoler les États-Unis par rapport au reste du monde. Il l'a montré sur l'environnement quand il a quitté
l'accord de Paris.
Il l'a montré sur l'UNESCO, il l'a montré sur le TPP, sur l'ALENA, on est à deux doigts qu'il nous le montre aussi. Sur l'OMC, il a bloqué la machine. Enfin, tout ça, c'est pas quelque chose qui le fait peur. Ce principe d'incertitude qu'il a mis en place doit plutôt inquiéter, mais c'est ce qu'il veut faire, inquiéter justement pour que cela fonctionne, comme il l'a fait, vous le disiez tout à l'heure, très justement, à propos de la Chine, où après être monté très rapidement dans les tours, tout le monde est redescendu aussi rapidement et enfin, on est un peu plus calme.
Jean-Noël Vieille.
Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand on regarde finalement les trois séquences qu'on vient de connaître, Corée du Nord, Chine et maintenant Syrie, on a eu exactement la même montée en puissance. On a fait des émissions ici qui étaient à des moments extrêmement, on se posait la question, est-ce que les États-Unis vont recevoir une bombe de la Corée? Ça s'est jamais produit. Est-ce que la Chine va rompre les relations commerciales? Ça ne s'est pas produit. Donc on est bien, et moi je suis assez d'accord, on est bien dans ce schéma où on exacerbe les tensions pour ensuite faire revenir tout le monde à la raison. Là, en fait, il faut se cantonner à la problématique syrienne qui, effectivement, nous avons... il y a eu une attaque qui est... Enfin, c'est impossible de laisser passer ça. Il faut qu'il y ait des frappes. Je pense qu'on est quand même capable, techniquement, d'aller frapper de façon chirurgicale et d'aller attaquer ce qui ne doit plus ressortir des armes chimiques en Syrie. Il est quand même pas normal, quand même, que Poutine continue entre l'assassinat en Grande-Bretagne avec du poison et
l'assassinat,
puis
oui, de
comment peut-il soutenir à ce point le régime syrien. Je pense que ça, c'est pas acceptable.
Question technique, François, puis il nous reste très peu de temps. Il faut dire, en général, qu'on se prépare à une frappe. Emmanuel Macron disait, la France va annoncer dans les prochains jours, en coordination avec les États-Unis, une attaque. Comment on riposte, comment on frappe justement, comment on frappe la Syrie sans toucher les Russes, sans toucher les Iraniens, tout ça, on sait le faire, bien entendu.
Les Israéliens y arrivent très bien. Ils sont exceptionnellement bons, mais on n'est pas mauvais non plus. Et sur le personnage Trump, il a une vision du monde. Il a de la constance. Et là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il a sa vision de ce monde transactionnel, bilatéral, et une vision qui effectivement ferme la porte à 70 ans d'histoire américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, c'est un homme de son temps au niveau de ses sources d'information. Oui, il est très accro aux réseaux sociaux comme moyen de communication et d'information. Et oui, il est très accro à certaines chaînes de télévision. Et je crois qu'il n'aurait pas commenté négativement ce que j'ai dit sur le fait qu'il regarde Fox News le matin. Parce qu'il regarde Fox News le matin et il a tendance à tweeter très volontiers autour de ce qu'il a entendu sur Fox. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot ou qu'il n'ait pas de constance dans les idées. Et effectivement, ça c'est la troisième chose, et celle qui m'inquiète, c'est qu'il avait mis à la Maison-Blanche un certain nombre de gens calmes, raisonnés, pondérés, respectés. Il vient de les virer. À Bolton, que je connais très bien et depuis longtemps, et Bolton ne s'inscrit absolument pas dans ce monde sans guerre et essentiellement mercantiliste qui vient de nous être décrit autour de ce plateau. Bolton, c'est pas un mercantiliste, hein, il fait pas du business.
Non, j'ai dit exactement le contraire.
Oui, non, ce que je dis. Mais il est le conseiller national de sécurité du président Trump. Alors vous me direz, il va partir au bout de trois jours. Il va peut-être partir au bout de trois jours.
D'accord là-dessus.
Mais pour l'instant, l'homme qui est aux manettes, c'est celui-là et pas un autre.
Juste un mot, Jean-Éric Branat. Toujours au-delà de la Syrie, on voit le contentieux qui est vif en ce moment avec la Russie. On voit le rouble qui est au plus bas depuis deux ans après de nouvelles sanctions prises ce week-end, juste avant le week-end.
Par contre, les marchés, ce que je regardais, les marchés russes se comportent plutôt bien. Alors, est-ce que c'est un peu l'impact aussi matières premières parce que c'est très fortement impacté.
Bien sûr, ouais.
Mais sur un an, le marché russe a fait plus 15%.
D'accord. Mais depuis quelques jours, c'est vrai, on voit le rouble quand même qui se casse la figure. Une nouvelle sanction contre les oligarques, contre des groupes russes. Bon, nouvelle sanction. Où est-ce qu'on en est juste du Russia Gate aux États-Unis? C'est une menace contre le président américain?
Absolument pas. Mais depuis le départ, c'est pas une menace contre le président. C'est une enquête qui a été ouverte puisqu'il y a une une plainte, on va dire, qui est déposée auprès du FBI. Donc c'est
la
bien normal.
La justice avance ou pas?
La justice, elle a avancé, ouais. Oui. Il y a des gens qui ont été inculpés pour des malversations, en particulier le plus important, Paul Manafort, et son procès aura lieu au mois de septembre. Le président des États-Unis n'a jamais été inquiété, et Robert Mueller a encore dit il y a 3 semaines qu'il n'avait pas de raison d'inquiéter le président des États-Unis aujourd'hui, dans l'état des informations. En revanche,
mais au-delà de la Syrie,
en revanche, il a arrêté ça, oui. Des Russes, ouais. Qui ont, vous vous en souvenez, ça a suffisamment été commenté, qui sont intervenus en particulier sur les réseaux sociaux. C'est aussi une affaire qui a concerné Facebook, qui est beaucoup dans la tourmente actuellement, puisque tout cela a créé du chaos ici ou là et a généré des problèmes dans l'élection. N'a pas changé le résultat de l'élection, faut rassurer tout le monde, et ça n'a pas lieu d'être. Mais ça, c'est pas normal d'intervenir dans un processus démocratique.
Bien, bon, bah écoutez, on en reparlera, bien sûr, c'est pas fini. Merci à tous. Jean-Éric Brana, à suivre donc Quand l'Amérique gronde, sorti dans 2 semaines, justement, voilà, le retour dans les années 68. 20 ans, il avait 20 ans, Donald Trump, voilà, il veut revenir peut-être à ce monde d'avant, c'est son acte fondateur, son année fondatrice, donc l'année 68, vous l'expliquez.
Et tous ses électeurs avec lui.
Jean-Noël Vieille, stratégiste marché chez HPC, et puis François Hesbourg avec nous, conseiller spécial auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique, comment perdre la guerre contre le terrorisme. On revient très très vite avec les décodeurs de l'écho, c'est terminé, on revient sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.